Faut-il fuir la persécution ? Que faire lorsque la persécution arrive ? Rester ou partir ? Matthieu 10, 23. Quand on vous persécutera, c'est Jésus qui parle à ses disciples, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Voilà le commentaire de ce verset. Ces paroles de Jésus peuvent donner l'impression que dès que nous rencontrons la persécution, nous n'avons qu'à plier bagages et partir vers une partie du monde plus tranquille. Est-ce bien la solution pour l'Église persécutée ? Certains y croient. J'ai récemment parlé à un réfugié du Golfe Persique. Il était convaincu que nos pays occidentaux devaient ouvrir leurs portes pour accueillir tous les chrétiens de son pays. Lisons plus attentivement ce verset. Le contexte de son enseignement, c'est l'envoi des disciples en mission. Une mission périlleuse vers une population qui pourrait être hostile à leur message. Au passage, Jésus avertit que cette mission est pressante et prioritaire, puisqu'on risque de ne pas pouvoir parcourir toutes les villes d'Israël avant son retour. La fuite devant la persécution est une possibilité, dit Jésus, mais seulement quand il s'agit d'un repli stratégique pour aller plus loin avec l'Évangile dans le monde fermé. Le fait est que la persécution est souvent plus féroce dans les pays où l'Évangile progresse le plus. J'ai souvent été impressionné par des hommes et des femmes qui ont choisi de rester chez eux dans ces situations de persécution. Ils avaient vécu la prison, ils avaient perdu un membre de leur famille, ils avaient même reçu des invitations pour aller vivre en Amérique. Mais ils ont choisi de rester sur place avec une situation bien précaire. Il savait que l'endroit le plus sûr au monde, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Il savait que l'ennemi voulait vider leur pays des chrétiens, et ils ont choisi de rester pour que l'Église grandisse. Ces chrétiens courageux ont expérimenté que Dieu est leur refuge. En restant, ils ont montré l'audace de la foi. Voilà quelques mots du directeur de Portes Ouvertes, que vous pourrez retrouver dans ce petit magazine Rencontre, édité par l'association Portes Ouvertes, association qui travaille au service des chrétiens persécutés. Et ce texte m'a fait penser à la situation de l'apôtre Paul, qui a souvent été persécuté. Et je vous propose de regarder ce matin, dans une de ces situations, comment il a réagi, et surtout comment il a prié dans cette situation. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Je lis avec vous jusqu'au chapitre 3, verset 13. Frères, pour nous, séparés de vous pour un temps par la vue, mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car vous le savez, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des persécutions. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos épreuves, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications afin de voir votre visage et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu, notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Parfois, quand on achète un livre, on trouve un petit papier marqué « Erratum » et qui signale une petite erreur dans l'édition précédente. Alors, j'aimerais signaler une petite erreur qui s'est glissée dans la prédication d'il y a 15 jours, où je vous disais que 1 Corinthiens était la première lettre où Paul parle de la prière. Mais dans l'ordre chronologique des lettres de Paul, c'est bien 1 Thessaloniciens qui est la première lettre dans laquelle Paul parle de la prière. Et c'est le texte, un des textes que nous lisons ce matin. Et donc ce matin et aussi dimanche prochain, j'aimerais parcourir avec vous ces deux lettres aux Thessaloniciens. J'ai choisi un texte dans chaque lettre qui nous parle de la prière. Pour poursuivre ensemble notre thème, Seigneur, apprends-nous à prier avec Paul. Et ce matin, le thème sera plus exactement apprendre à prier avec passion. Apprendre à prier avec passion. Et pour préparer cette prédication, ainsi que d'autres pendant cette année, je me suis inspiré d'un petit livre de Don Carson qui s'intitule « La prière renouvelée ». J'aimerais méditer avec vous ce texte de 1 Thessaloniciens en deux temps ce matin. Je vous propose que nous regardions d'abord quelles sont les motivations de Paul pour prier. Et ensuite, nous regarderons plus précisément le contenu de la prière. Qu'est-ce que Paul dit dans sa prière? Que prie-t-il? Donc, regardons d'abord ses motivations. J'en ai noté 3. La première, Paul a un vif désir de revoir les chrétiens de Thessalonique. Vous avez peut-être vu pendant la lecture, chapitre 2, verset 17, « Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps par la vue, mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de vous revoir. » Un petit peu plus loin, au début du chapitre 3, verset 1, « Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. » Ça veut dire qu'il est resté seul, il a envoyé ses collaborateurs. « Nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ. » Et encore un petit peu plus loin, au verset 5, « C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. » De quoi parle Paul, ici, dans ce passage? Pourquoi Paul a-t-il tant envie de revoir les Thessaloniciens? Pourquoi a-t-il peur que le diable pourrait faire quelque chose contre eux, au point que Paul décide d'envoyer un de ses plus proches collaborateurs, Timothée? Il faut revenir pour cela au contexte qu'on l'on trouve dans le livre des Actes. Au chapitre 17, vous pourrez relire ce texte à la maison. Quelques mots pour situer les propos de Paul. Paul est dans son deuxième voyage missionnaire et il arrive à Thessalonique, Actes 17, verset 1. Il y enseigne, comme c'est son habitude, il va à la synagogue des Juifs et il prêche l'Évangile. Il leur annonce cette bonne nouvelle que le Messie tant attendu est venu, c'est Jésus-Christ. Et pendant trois sabbats, nous dit le début d'Actes 17, c'est-à-dire pendant deux ou trois semaines, Paul enseigne le peuple juif en leur disant « Votre Messie est venu ». Certains croient et forment un petit groupe qui est l'église naissante à Thessalonique. Mais des juifs jaloux ameutent la foule et Paul est obligé de partir précipitamment pour la ville de Bérée, puis pour la ville d'Athènes, et enfin il arrive à Corinthe, où semble-t-il il écrit ces deux lettres aux Thessaloniciens. En 2-3 semaines, la prédication de Paul a fait naître une petite communauté chrétienne à Thessalonique. Mais Paul a dû fuir la persécution et il s'inquiète de la santé spirituelle de ces nouveaux-nés, de ces nouveaux chrétiens. Et voilà pourquoi Paul a le vif désir de les revoir. Il envoie Timothée pour prendre de leurs nouvelles, lui-même ayant été retenu. C'est ce que nous dit le verset 18. Satan nous en a empêchés. Et Paul ne précise pas comment cela s'est passé, mais il y a eu des obstacles dans ses projets. Il n'a pas pu aller à Thessalonique comme il le souhaitait. Première motivation de Paul, donc, pour prier, son désir de revoir les chrétiens de Thessalonique, de les enseigner, de leur donner un fondement solide, de les aider dans les premiers pas de la vie chrétienne. Voilà le rôle que va avoir Timothée. Passons au deuxième point. Quel est le but de la venue de Timothée? Eh bien, c'est d'affermir ces jeunes chrétiens. Je relis le début du chapitre 3. Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les épreuves présentes. Car, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Dit autrement, c'est notre lot, les épreuves font partie de la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi, n'y tenant plus, verset 5, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. En quoi consiste le travail de Timothée, envoyé par Paul ? Il va poursuivre l'enseignement de Paul. Il va affermir, il va consolider les bases de l'Évangile reçu par les Thessaloniciens. Il va aussi les encourager, nous dit Paul. Il va accompagner ces jeunes chrétiens, verset 2. Et notez qu'il va les accompagner dans l'intérêt de leur foi. Timothée ne va pas les rejoindre simplement pour les rassurer par sa présence, mais il y va surtout pour soutenir leur foi. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi Paul envoie-t-il Timothée? Eh bien, pour que leur jeune foi se consolide et qu'elle ne vacille pas. Verset 3. Pour que personne ne soit ébranlé dans les épreuves présentes. Il y a des difficultés. Les souffrances, les difficultés, les persécutions font partie de la vie des chrétiens. Dieu offre le salut en Jésus-Christ, mais ce n'est pas une assurance tout risque. Paul dit aux Thessaloniciens qu'il leur sert de modèle en tant que chrétien persécuté à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il a été lui-même chassé par ces religieux jaloux de la prédication de l'Évangile. Les difficultés ne sont donc pas, pour Paul, une surprise. La question qu'il se pose et la raison pour laquelle il envoie Timothée, c'est est-ce que la foi de ces Thessaloniciens va passer le test? Est-ce que leur foi va traverser les épreuves? Ou bien est-ce qu'elle va disparaître avec les épreuves? Le diable est à l'affût d'une occasion pour faire chuter les croyants et réduire, si possible, à néant l'œuvre de l'Évangile. C'est ce que dit le verset 5. En lisant ce texte, je me suis dit, comment pouvons-nous prendre soin de ceux qui, parmi nous, sont de jeunes chrétiens? Il est facile, je crois, d'adopter les codes symboliques ou langagiers d'un groupe. On peut très facilement acquérir le vocabulaire d'une église évangélique. On peut très facilement adopter ses traditions, ses habitudes. Et il y a un risque, me semble-t-il, c'est que le sentiment d'appartenir à un groupe, à la famille de Dieu, sentiment qui est juste, qui est bon, il y a un risque que ce sentiment soit superficiel. Il faut qu'il y ait un affermissement, une consolidation, poser des bases que le diable ne pourra pas enlever. Afin que ce sentiment d'appartenance à l'Église, à la famille de Dieu, ne flotte pas au gré de nos humeurs ou des circonstances de la vie, mais que ce sentiment d'appartenance s'ancre dans la parole de Dieu. Il faut traverser les épreuves avec persévérance. Il faut traverser les épreuves avec persévérance. C'est une nécessité. Et Dieu est là pour nous y aider. Troisième motivation de Paul, les progrès spirituels des Thessaloniciens. Ce qui compte le plus pour Paul, ce sont ses progrès spirituels. Je relis à partir du verset 6. Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de notre désir, de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos épreuves, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Le verset 6 pourrait nous laisser penser que ce qui rassure Paul, c'est que les Thessaloniciens pensent à lui. Il dit « le bon souvenir que vous gardez de nous ». Est-ce cela qui soulage Paul? Est-ce parce que les Thessaloniciens ont gardé un bon souvenir de lui que Paul a envie de prier? Eh bien, en fait, non. Les versets 7 et 8 nous disent que sa consolation, c'est la foi des Thessaloniciens. Verset 7 et au verset 8, leur fermeté. Tout au début de cette lettre, au chapitre 1 et au verset 2, on trouve la même formulation. Paul dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce qui encourage Paul, ce qui le pousse à prier. Notez au passage ces trois mots, la foi, l'espérance et l'amour, que l'on retrouve souvent dans les lettres de Paul. Paul se réjouit de cette bonne nouvelle. Les Thessaloniciens progressent dans la foi. Ils persévèrent dans la foi. Et cela lui donne envie de prier. La motivation de Paul pour prier, c'est sa passion son amour pour ses frères et sœurs en Christ, même s'ils sont des débutants, des jeunes chrétiens. Et donc, pour reprendre notre thème, apprendre à prier comme Paul, c'est apprendre à aimer comme Paul. Et pour le dire de façon plus large, apprendre à prier, c'est apprendre à aimer. Apprendre à prier, c'est apprendre à aimer. Voilà pour les motivations de Paul. Regardons maintenant de plus près sa prière, ce qu'il dit au verset 9 et jusqu'au verset 13. Et là, j'aimerais souligner rapidement quatre choses. La première, Paul remercie Dieu pour les Thessaloniciens. Verset 9. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous, devant notre Dieu. Paul ne remercie pas les Thessaloniciens pour leur persévérance. Il ne les félicite pas de n'avoir pas abandonné la foi, mais il remercie Dieu à leur sujet. Cela rejoint ce que nous disions il y a deux semaines sur 1 Corinthiens 1. Ce qui réjouit le cœur de Paul, ce pourquoi il prie, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie des Thessaloniciens. Le but de Paul, c'est d'encourager ces jeunes chrétiens. Ce n'est pas de les flatter, mais en soulignant l'œuvre de Dieu dans leur vie, il les encourage. Ainsi, Paul attire leur attention sur l'œuvre de Dieu qui affermit leur foi. Et c'est cette œuvre divine qui réjouit le cœur de Paul. Et l'expression « devant Dieu » à la fin du verset 9 est importante, car elle nous évite de croire que Paul est satisfait de lui à travers les autres. C'est ainsi qu'on pourrait comprendre spontanément le verset 9, que Paul est content des progrès des Thessaloniciens parce que du coup ça fait de lui un bon apôtre. Il a bien annoncé l'évangile et voilà, personnellement, c'est gratifiant pour lui, c'est satisfaisant pour lui. Et on pourrait avoir l'impression que, quelque part, Paul utilise la foi de ces jeunes chrétiens pour se féliciter lui-même. Mais au contraire, c'est devant Dieu qu'il se réjouit de l'œuvre de Dieu dans la vie des Thessaloniciens. Au chapitre 2 et au verset 19, nous avons lu tout à l'heure, « Qui donc, en effet, est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Ces versets vont dans le même sens. Les deux versets qui suivent, chapitre 3 et verset 10, confirment ce que nous venons de dire. Je les relis. Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications afin de voir votre visage et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Paul prie nuit et jour. Ça ne veut pas dire que Paul prie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Paul doit dormir. Cela ne veut pas dire que Paul a l'esprit en permanence en prière, comme ça, de façon ineffable, incompréhensible. Cela veut simplement dire que quand Paul prie, soit la nuit, parce que ça lui arrive de prier la nuit, soit le jour, parce que ça lui arrive de prier de jour, quand Paul prie, eh bien il prie pour les Thessaloniciens. Et ici, Paul prie pour qu'il puisse les revoir, afin de poursuivre leur formation, leur enseignement, fortifier leur foi. Remarquez que Paul ne se contente pas de prier pour que Dieu fasse son œuvre, augmente la foi des Thessaloniciens. Il demande aussi à Dieu de l'envoyer lui-même, Paul, pour faire cela, pour pouvoir compléter ce qui manque à l'enseignement des Thessaloniciens, pour fortifier leur foi, pour consolider leur base chrétienne. Le but, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de ces jeunes chrétiens, mais le moyen peut-être que Dieu va utiliser, c'est Paul lui-même, en lui donnant une occasion pour les revoir et les enseigner à nouveau. Et c'est la raison pour laquelle Paul prie que Dieu aplanisse son chemin jusqu'à eux. Et c'est aussi ce que Paul dit au verset 18. Nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. C'est le projet de Paul de revenir à Thessalonique et de continuer à enseigner ces jeunes chrétiens. Et Paul prie pour cela. Les obstacles, loin de décourager Paul, le poussent à prier davantage. Je vous propose quelque chose de tout à fait pratique. Posons-nous cette question. Pour qui, pour quelle personne, pourrions-nous prier cette semaine comme Paul le fait ici? Vous avez reçu un petit papier tout à l'heure, au début de la prédication. Si vous ne l'avez pas perdu, c'est le moment de le sortir. Si vous avez un stylo, je vous invite à réfléchir quelques secondes au nom d'une personne pour qui vous pourriez prier cette semaine. Si vous avez une idée tout de suite, notez-la. Si vous n'avez pas d'idée, réfléchissez. Vous pouvez garder ce papier et puis noter un nom, peut-être un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Choisissez quelqu'un, pas 10 personnes, pas 5 personnes, une personne. Choisissez quelqu'un que vous allez encourager. Pas flatter cette personne, comme on l'a vu pour Paul, hein. Il ne s'agit pas de flatter les gens, mais d'essayer de discerner l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un et d'aller lui dire « Je remercie Dieu pour son œuvre dans ta vie. Je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour toi en ce moment. » Alors vous voyez que ça veut peut-être dire discuter un petit peu pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Je vous propose de prier pour cette personne pendant cette semaine. Priez pour que Dieu aplanisse votre chemin vers cette personne. Pour que Dieu vous utilise modestement, selon sa volonté, pour encourager ce frère ou cette sœur en Christ. Parfois, quand on prie, on a de belles phrases, de belles formules très générales. Là, je vous propose quelque chose de tout à fait concret, de tout à fait pratique, de précis. Notez le nom de cette personne sur le petit papier et priez pour que Dieu vous montre d'une manière ou d'une autre ce qu'il fait dans la vie de cette personne et comment vous pouvez peut-être encourager cette personne en allant discuter avec elle, en priant pour elle. Encore deux petits points. Que dit Paul encore dans cette prière? Verset 12. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Paul prie pour que les Thessaloniciens s'aiment les uns les autres, et même débordent d'amour les uns pour les autres. C'est l'œuvre du Christ qui est la source de cet amour envers les autres. C'est ce que dit Paul au début du verset. Que le Seigneur fasse abonder. Que le Seigneur fasse abonder. C'est l'œuvre du Christ qui est mentionnée au verset 11, le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous apprend à aimer et à déborder d'amour. Déborder d'amour, c'est l'abondance, c'est la générosité d'un amour sans condition, d'un amour qui se donne à l'image de Jésus qui a donné sa vie. Paul encourage les Thessaloniciens à s'aimer les uns les autres dans l'Église. Et Paul encourage les Thessaloniciens à aimer tous les hommes de la même manière. C'est-à-dire, d'une part, les membres de la famille de Dieu, et aussi ceux qui ne le sont pas. On retrouve la même idée à la fin de la lettre, au chapitre 5. Alors, j'ai mal noté la référence. Alors, excusez-moi, j'ai mal noté la référence, donc je ne retrouve pas le verset. C'est pas grave. Je reviens au verset 12 du chapitre 3. Vous avez peut-être remarqué que Paul se cite en exemple. Paul fait souvent ça. Pourquoi ? Parce que pour ces jeunes chrétiens de Thessalonique, Paul a été un exemple. C'est lui qui leur a annoncé l'évangile. Et ces jeunes chrétiens, ce petit groupe qui s'est formé autour de Paul et de ses collaborateurs, puisque Paul dit « nous », ces chrétiens ont vu comment les chefs religieux jaloux ont persécuté Paul et Paul a été obligé de partir annoncer l'évangile ailleurs. Les Thessaloniciens ont donc eu Paul comme exemple vivant de ce que c'est annoncer l'évangile, être persécuté au nom de Jésus, par amour pour ceux qui se perdent dans ce monde. Et puis, Paul est aussi un exemple parce que les membres du peuple juif qui ont rejeté l'évangile qu'il leur a annoncé, Paul les aime. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ses lettres. Donc Paul se cite en exemple et l'encouragement qu'il donne à ces chrétiens de Thessalonique, pour Paul, cet encouragement a une portée éternelle. Et ce sera le dernier point, verset 13. Paul prie pour que les Thessaloniciens soient affermis en vue de la perfection à venir. Qu'il affermisse vos cœurs, chapitre 3, verset 13, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Il y a 15 jours, lorsque nous méditions 1 Corinthiens chapitre 1, nous voyons la même chose. Ce que Paul vise dans sa prière, c'est l'œuvre de transformation que Dieu opère dans la vie des chrétiens, jusqu'à ce que Dieu vienne lui-même établir définitivement son règne. Paul prie dans la perspective de l'éternité, et pas seulement pour le moment présent. Le but d'une foi affermie, solidement ancrée dans l'amour pour Dieu et pour les autres, et dans la saine doctrine, la parole de Dieu, le but de cette foi solide, c'est la sainteté devant Dieu. Voilà un sujet de prière que vous pouvez ajouter pour la personne qui est notée sur votre petit papier. Que Dieu affermisse son cœur pour qu'il ou elle soit saint et irréprochable devant Dieu, notre Père, au dernier jour. Et je terminerai par cette question. Depuis quand n'avons-nous pas prié ainsi ? prié ainsi? Depuis quand n'avons-nous pas prié comme Paul dans ce passage? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ta parole. Nous te louons parce que tu as inspiré Paul pour écrire cette lettre qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui et qui nous enseigne à prier avec passion. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à aimer ceux pour qui nous prions. Seigneur, nous te demandons que ta volonté soit faite dans nos vies, pendant cette journée, pendant cette semaine. Que ton nom soit béni. Amen. Simon est en train d'enseigner les jeunes du catéchisme.